fin. Donc, Philippe, rappelle-moi si on a oublié lorsqu'on dit bon dimanche à chacun, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qu'on aimerait partager. Mais continuons, si vous voulez bien, déjà dans cette réflexion. Vous allez voir sur le dos de votre feuillet un plan qui nous aide à suivre ce que nous pouvons retirer de cette magnifique histoire de Jonathan et David. Ben, je vous invite, avant cela, de prier avec moi, de regarder l'écran quand il y a des versets qui sont projetés, ou de trouver ces versets sur votre propre écran, ou même sur une Bible en papier. Ça existe encore, vous savez. Très bien, on va prier ensemble, chers amis, avant d'aller plus loin. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Donne-nous, Seigneur, nous te prions de comprendre davantage de ta bonté, de ton amour qui dure à toujours, de ta fidélité. Sois avec nous, que nous puissions être un peuple qui écoute le Maître, qui fasse en sorte que nous mettions en pratique ce que tu nous dis. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Mais vous savez, parfois, l'amitié est une chose étrange, n'est-ce pas? Il me semble qu'il y a une amitié un peu étrange entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Ça m'a surpris. Et parfois, l'amitié peut être profonde et efficace. Lorsqu'un certain Philippe Melanchthon, à 21 ans, a accepté le poste de professeur de grec à l'université de Wittenberg en Allemagne, cela faisait qu'il croisait pour la première fois un certain Martin Luther, qui lui était au tout début de ce qu'on appellerait par la suite la réforme. Et pendant 30 ans, plus ou moins, cette amitié entre ces deux hommes permettait la transformation de la foi chrétienne en Europe, dans le monde entier par la suite. Luther avait blagué une fois que pendant que lui et Philippe, donc Philippe Melanchthon, buvaient de la bière, la puissance de la parole de Dieu a affaibli elle seule la papauté de l'époque. Bon, une telle amitié, en réalité, est rare. Il me semble rare encore pour nous, peut-être dans votre expérience. Vous ne témoignez pas de ce genre d'amitié aussi profond. Souvent, il y a, triste à dire, après un moment, même pour des amitiés qui durent pendant un temps, il y a ensuite division, dispute ou déception, qu'on ne partage pas encore la même vision. Mais ce matin, nous tombons donc dans cette lecture sur l'exemple biblique par excellence, je dirais, d'une amitié profonde. Jonathan et David. Mais bien sûr, l'amitié en tant que telle n'est pas le thème principal de ce chapitre. Car l'amitié se concrétise dans le cadre d'une alliance. C'est ça ce que nous allons voir. Oui, dans 1 Samuel, l'alliance entre Jonathan et David a été conclue au chapitre 18. C'est là où nous avons commencé notre série il y a 3 semaines. Mais c'est ici au chapitre 20 où nous voyons ce que ça signifie cette alliance pour ces deux hommes. Un engagement de s'aligner l'un à l'autre malgré la pression de faire autrement. Et c'est ainsi qu'ils prêtent serment l'un à l'autre. Jonathan au verset 17 et Jonathan et David au verset 42. Et donc ce matin, nous allons voir en quoi consistent ces engagements. Et c'est là, je pense, où nous allons trouver des repères puissants pour notre vie de croyants aujourd'hui. Entrons donc un peu dans cette histoire pour que le Seigneur nous parle de ce que nous avons à apprendre. Donc d'abord, cette histoire nous invite, premier point, à voir la fidélité au cœur de l'alliance, la fidélité au cœur de l'alliance. L'histoire commence avec David qui, au chapitre précédent, le chapitre 19, a réussi à s'échapper de Saül 4 fois. David, on le comprend, craint donc pour sa vie s'il reprend sa place à la cour du roi, ici au chapitre 20. Il trouve son ami Jonathan et il explique sa crainte. Verset 2, « Il veut ma vie, lui dit-il. » Jonathan, à ce stade, il n'est pas super convaincu que ce soit le cas. Peut-être il n'a pas assisté aux trois derniers événements du chapitre 19. Il était là au début du chapitre 19, mais peut-être il ignorait ce qui s'est passé dans les trois autres épisodes. Et donc, il estime, lui, d'avoir toujours l'oreille de son père. « Pourquoi, dit-il, mon père, me cacherait-il cela ?» Il n'en est rien, il dit. Non, ne vous inquiétez pas. Mais David raisonne avec lui au verset 3, vous voyez ça. « Écoute, Jonathan, lui dit-il, ton père sait que nous sommes proches. » Et donc, c'est clair qu'il ne va pas parler de ses projets de me faire disparaître. « Crois-moi lorsque je te dis qu'il n'y aura pas un pas entre moi et la mort. » Et donc, lorsque Jonathan répond au verset 4, qu'il fera pour David ce que David voudra, David lui explique son plan pour comprendre définitivement les intentions de Saül. « Dis-lui que je dois rentrer chez moi pour la fête annuelle de mon clan. Vois comment il réagit, mon père, par rapport à cette nouvelle. Et s'il réagit avec colère, ben cela fera mauvais signe. » Et puis cela nous mène au verset 8 de ce texte. Et rappelons-nous que c'est David, celui désigné par Dieu à être le roi, nous le savons depuis le chapitre 16, qui lui, ici, plaide grâce auprès du fils de celui qui est le roi, mais qui le Seigneur a rejeté. Et que dit-il, verset 8 ? Montre donc ta bienveillance pour ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance de l'Éternel. David plaide l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire le pacte qui a eu lieu entre Jonathan et David. Il s'est fait aux yeux de Dieu. Donc l'engagement, ce n'est pas à prendre à la légère. Non, c'est un engagement qui reflète l'engagement de Dieu envers son peuple. Il a aussi fait une alliance avec son peuple. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'engage envers son peuple, d'être bienveillant envers eux. Donc David dit, montre donc ta bienveillance pour ton serviteur. D'autres traductions disent, agis avec fidélité, ou montre ta bonté, ou agis avec fidélité. C'est un mot ici, bienveillance, important dans la Bible. Le mot en hébreu qui se prononce, pour intérêt, chesed. Et cela exprime l'engagement de Dieu d'agir avec bonté envers son peuple. Vous vous souvenez, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse s'est caché dans le creux du rocher et l'Éternel descend dans la nuée et il proclame verbalement son nom à Moïse. Que dit-il, Exode chapitre 34, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, chesed, et en fidélité. » Riche en amour et en fidélité, selon le semeur. Riche en bonté et en fidélité, selon le second 21. Au cœur de l'engagement de Dieu envers son peuple, il y a cet engagement d'agir avec bonté. Nous voyons l'alliance et cet engagement d'agir avec bonté dans un verset plus tard, dans 1 Roi, si on peut juste sauter à cela, Pablo. 1 Roi, chapitre 8, verset 23, nous dit ceci. « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. » Pourquoi cela ? C'est le cas ? Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Donc la bonté de Dieu est l'expression de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Alors maintenant revenons à David au chapitre 20. Il réclame cette même bonté auprès de Jonathan. Car Jonathan et David se sont entrés dans une alliance de l'Éternel, ils disent. Oui, tout est là pour que Jonathan dise à David, « Écoute, David, franchement, ce que tu demandes va trop loin, c'est osé ça. » Car Jonathan, jusque-là, n'a pas résolu dans 1 Samuel de désobéir à son père. Oui, c'est résolu à aider David, mais non pas forcément à l'encontre de la volonté de son père. Donc il se met un peu en danger, David, en demandant ces choses à Jonathan. Et David dit donc, Jonathan, je sais ce que je demande n'est pas normal. Mais toutefois, je te le demande, car je plaide la même bonté que le Seigneur lui manifeste. Une bonté non méritée, une bonté fidèle. Et Jonathan, verset 13, il confirme que si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que le Seigneur soit avec toi. Et puis il ajoute, comme il a été avec mon père. Et c'est très révélateur cette petite phrase, comme il a été avec mon père. Car ainsi, Jonathan semble reconnaître que oui, tout comme l'Éternel pendant un moment a été avec Saül, il sera maintenant avec David. Ce qui signifie qu'il sait, Jonathan, que David remplacera Saül sur le trône d'Israël. Donc même si à l'heure actuelle, Jonathan, c'est le fils du roi tenant du titre, il se projette maintenant dans l'avenir avec foi, et cela le mène, lui aussi, à plaider chesed, bonté, bienveillance, de la part de David dans le futur, verset 14. « Si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel. » Même mot, « Je ne mourrai pas. » Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de surface du sol. D'habitude, vous voyez, c'était ça la pratique. Celui qui arrive au pouvoir se débarrasse de celui qui le remplace. C'est normal. De sa cour, de sa famille, l'ancien régime doit être supprimé en totalité, de peur que l'ancien régime menace la stabilité du nouveau régime. C'était comme ça à l'époque. Tout le monde comprenait cela. Et Jonathan dit à David, « Non, 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 ne fais pas ça avec moi. » Qu'est-ce qu'il réclame, verset 16? Jonathan, car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David. Oui, David aura une maison, une lignée royale. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan s'aligne du côté de la maison de David et non de Saül, bien qu'il soit lui-même le fils héritier. C'est extraordinaire ce que Jonathan fait ici. Il réclame donc la bonté qui découle de cette alliance faite avec David. Il sait qu'il en aura besoin. Si cela vous intéresse, plus tard, vous pouvez aller voir le chapitre 9 de 2 Samuel où David tient cette promesse envers Mephibosheth. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, le fils de Jonathan. David tenait parole. Il connaissait Dieu, le Dieu qui tient parole. Il connaissait la bonté et la fidélité de Dieu. Et cela nous mène à notre première question, si vous voyez sur le plan. Nous appuyons-nous sur la fidélité de Dieu envers nous en Christ. Car en Christ Jésus, loin de Dieu, la bonté, la fidélité de Dieu se révèle d'autant plus claire. Jean, et on va projeter ce verset-ci, l'apôtre Jean commence son évangile en nous disant, verset 14 du chapitre 1, que la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est faite homme. Dieu, donc, est devenu homme. Elle a habité parmi nous. Et elle était comment? Jésus était comment? Pleine de grâce et de vérité. Si vous prenez le mot « chesed » en hébreu, vous traduisez ce mot en grec, et ensuite vous traduisez le grec en français, vous avez le mot ici, grâce, bonté. Et vérité, traduction du mot fidélité en Exode. Donc au lieu de devoir, nous, aujourd'hui, mériter l'amour de Dieu, de plaider nos mérites devant Dieu, de chercher l'approbation de Dieu à travers nos efforts religieux. Je suis encore là au culte, vous voyez, ça doit compter pour quelque chose. Non, l'évangile de Christ proclame la bonté de Dieu. Une bonté imméritée à tout point de vue envers chacun qui se confie en Christ. À quel point est-ce que nous voyons cette bonté? Bah, cette alliance, la nouvelle alliance, a été scellée du sang de Christ, de son propre sang. Il s'est donné à la croix. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Le jugement qui devait tomber sur nous pour notre péché est tombé, nous dit le Nouveau Testament, sur lui, Jésus-Christ. Et donc, au lieu de fuir Dieu, de crainte qu'il ne nous accepte pas, au lieu d'essayer d'impressionner Dieu, de peur que sinon il verra ce qui est vraiment sur notre cœur, nous pouvons recevoir de la part de Dieu sa grâce. Et donc, plaidons, comme faisaient Jonathan et David l'un envers l'autre, plaidons cette grâce envers Dieu. Ensuite, nous pouvons poser la question, manifestons-nous une telle fidélité dans notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres? Nous ne sommes pas, à ma connaissance, de la lignée de David, de la lignée de Jonathan, nous ne sommes pas un fils d'un roi, ni le roi désigné par Dieu, mais nous sommes ceux qui appartiennent par la grâce de Jésus-Christ au royaume de Jésus-Christ, loin de Dieu, le fils de David. Le peuple de Dieu doit manifester cette même bonté, même amour, qui persévère, qui tient parole, dans toutes nos relations, toutes nos activités. On peut mentionner toute la gamme de ce que nous faisons. Voici quelques exemples. Dans nos couples, si nous sommes en Christ, si nous sommes mariés, l'amour dont on proclame à la cérémonie de mariage n'est pas en premier lieu un sentiment. « Oh chérie, combien je t'aime !» Non. C'est premièrement un engagement. « Chérie, je vais t'aimer, quoi qu'il arrive. » Lorsque plus tard, donc, on traverse des moments difficiles, le monde aujourd'hui nous dit que nous devons être authentiques, n'est-ce pas? Avec nos sentiments, de ne pas être hypocrite, de ne pas nier que maintenant il y a des difficultés, et donc ça permet de rompre l'engagement. Mais Dieu ne nous traite pas de cette manière. Dieu nous traite avec amour, qui tient, qui persévère. Et nous devons faire de même, quoi que nous ayons comme difficulté. Je sais que pour certains, même ici présents, il y a eu séparation, où il y a difficulté. Que devons-nous faire si nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre même péché dans ce domaine-là? Mais nous devons aussi, merci Seigneur, courir vers celui qui nous fait grâce. Trouver le pardon auprès de Dieu. Dans nos couples à l'aube, dans nos familles, nous sommes appelés à un amour persévérant. Ce soir, je vais voir un film de la vie de Lee Strobel. Vous allez voir ça, c'est dans le foyer, on va revenir là-dessus dans les annonces. Il y a encore moyen de voir ça en grand public dans une salle de cinéma jusqu'au mardi, donc je vous encourage d'y aller. Ça raconte la vie d'un journaliste qui s'est converti après sa femme s'est convertie. Lui faisait une enquête par rapport à la foi chrétienne. Mais apparemment, il y avait une scène de sa vie où cela a eu lieu, qu'ils ont filmé, mais qui ne se retrouve pas dans le film parce qu'il n'y avait pas assez de temps de tout mettre. Et Lee Strobel, l'auteur qui est devenu un écrivain par la suite, qui a écrit des livres qui ont aidé d'autres à venir à Christ, Jésus, la parole est à la défense, par exemple. Bon, il disait ceci par rapport à son père. « Lorsque j'étais ado, j'ai agi dans le dos de mon père et acheté une moto dont il m'avait interdit l'achat. Il a tout découvert la veille de la remise de mon diplôme de secondaire et nous avons eu une grosse dispute. Il m'a regardé et dit « Je n'ai même pas assez d'amour pour toi pour remplir mon petit doigt. » C'est pas triste d'entendre qu'un père puisse dire ça à son fils. Dire de telles choses, ça blesse. Ça crée du dégât, n'est-ce pas? Oui, nous parents, malgré la peine qu'il peut y avoir, nous sommes appelés à persévérer dans la bonté auprès de ceux qui nous sont chers. C'est pas toujours facile. Mais de lâcher, dire, bah, maintenant tu mérites aucunement mon amour. C'est de lâcher le Dieu qui tient ses promesses envers nous. Au travail, nous sommes appelés à être bienveillants. Tenez parole, restez fidèles. Manifestez une volonté réelle, sincère, d'honorer ceux pour qui on travaille, de faire notre mieux pour la société dans laquelle je me trouve, pour les collègues qui sont autour de moi. À l'Église, nous ne devons pas dépendre de l'approbation des uns et des autres pour continuer à servir. Non, mais nous servons avec un attachement humble et reconnaissant, car le Seigneur a été fidèle avec nous. Laisser tomber une tâche ou un ministère sans prévenir simplement parce que tout d'un coup il y a d'autres soucis ou responsabilités qui s'ajoutent à mon assiette, cela ne témoigne pas de l'amour persévérant de Christ. Oui, cela arrive à certains par déception, parfois par sensibilité simplement, à ce que quelqu'un d'autre a dit, de tout d'un coup donc lâcher subitement un engagement. Mais vous imaginez si le Seigneur nous lâchait chaque fois qu'on disait quelque chose qui lui déplaisait? Trop souvent, chers amis, ces choses se manifestent au sein du peuple de Dieu. Cela ne devrait pas être ainsi. Merci Seigneur pour le bon témoignage de notre Église. Dans ce quartier, on avait rendez-vous la semaine dernière avec le bourgmestre de notre commune. Et lui et son équipe disaient qu'ils n'ont jamais eu de plainte à notre sujet. Ouh, bonne nouvelle. Merci Seigneur, merci donc à vous pour votre bon comportement dans cette commune. Mais cela nous mène à notre deuxième point. Le coût d'une telle fidélité. Car il y a toutefois opposition, chers amis. Et notre souci d'avoir une bonne réputation ne doit pas nous mener à faire des compromis. Non, il nous faut le courage de faire face au coût de la foi chrétienne. David avait le courage de s'approcher de Jonathan, malgré le potentiel danger que cela lui posait, Jonathan, le fils du roi. Jonathan, quant à lui, doit faire face maintenant au mépris de son père. Après avoir expliqué à Saül l'absence de David, dans des termes discutés avec Jonathan, comment réagit-il, Saül? Verset 30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, « Fils pervers et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur le territoire, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. » Non seulement il rend furieux son père, Jonathan, mais Jonathan lui dit, son père, renonce à sa propre royauté. David mettait, bien entendu, mettait en danger le trône de son fils. Et son fils accepte cela. C'est impensable pour Saül. C'est bête. Oui, aux yeux du monde, suivre Christ, aux dépens de notre propre ambition, ridicule. Mais suivre Christ, c'est de renoncer à soi, vous savez, de ne plus rechercher avant tout mes ambitions dans la vie, mes objectifs, mes désirs, mes souhaits, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu, de soumettre ma volonté, se soumettre ma volonté à la sienne. Cela était incompréhensible pour Saül, et cela reste encore incompréhensible aujourd'hui. Le monde nous dit que lorsque la vérité fait obstacle à ce que je veux, c'est compréhensible de tricher afin d'avancer. Ça se fait parfois au boulot, ça se fait parfois dans nos déclarations d'impôts, ça se fait dans d'autres domaines, vous savez. Il y a 15 jours, j'avais demandé à une maman d'une connaissance de l'une de mes filles si elle était inquiète par rapport aux 6 critères pour avoir le bon indice composite pour que son enfant rentre dans l'école secondaire de leur choix. L'un des critères, c'est celle de la proximité du domicile de l'école. Car eux, ils habitaient assez loin de l'école qu'ils visaient pour leur enfant. Et elle avouait qu'effectivement, ils avaient joué la carte de ce qu'on appelle la fausse domiciliation. On fait semblant d'habiter à un endroit proche de l'école convoitée. Le monde, chers amis, fonctionne ainsi. Les puissants, il s'agissait là d'un couple qui réussit très bien la vie, mais les puissants de ce monde font ce qui est nécessaire pour avoir leur volonté. Qu'il ne soit pas ainsi parmi vous, disait Jésus à ses disciples. Et il le dit aussi à nous ce matin. Sommes-nous conscients, chers amis, du coût de la nouvelle alliance pour nous? Oui, il y a un coût à payer. Voici ce que Jésus disait dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Jonathan, il savait cela. Lorsqu'il défendait David, Saül, dans sa rage, verset 33, brandit sa lance contre lui pour le frapper. Mais où est-ce que le Seigneur aujourd'hui vous demande, chers frères et sœurs, d'encaisser le coup, de rompre, si nécessaire, avec quelqu'un de la famille, de devoir faire face à la moquerie, éventuellement à l'école ou au travail, de renoncer à une activité, à un loisir, à un luxe, afin d'être fidèle et sacrificiel dans votre soutien financier du royaume de Dieu. Je pense qu'il y a un danger pour notre Église. Dans ce quartier assez aisé de Woluwe-Saint-Lambert, c'est d'être un peu trop confortable avec la vie chrétienne, qui n'est pas pour finir très demandeuse pour certains d'entre nous. C'est une église ici où nous pouvons fréquenter sans que cela me demande grand-chose. Ils n'en ont pas besoin d'ailleurs. Vous voyez, les deux cultes semblent rouler assez bien. C'est bien, mais ils n'ont pas besoin de moi. Vous savez, dans les 10 dernières années de la vie de l'église, ça fait à peu près 10 ans que je suis là, nous avons vu beaucoup de personnes qui sont passées par ici. Des missionnaires qui sont venus, qui sont servis pendant un temps. D'autres missionnaires que nous soutenons à l'extérieur de la Belgique, à l'intérieur de la Belgique. Nous prions pour la mission, nous donnons en tant qu'Église pour la formation des serviteurs de Dieu à l'Institut biblique. Tout ça, c'est bien. L'Église a grandi un tout petit peu. Nous sommes au début d'un potentiel projet de bâtiment, c'est encourageant. Mais rendez-vous compte que tout au long de ces 10 années, jusque-là, aucune des nôtres, les personnes de notre Église, a été envoyée pour la formation à l'Institut biblique à temps plein. Aucune personne d'entre nous pendant ces 10 dernières années, a été envoyé en mission pour servir le Seigneur? Oui, les raisons sont complexes, je comprends cela. Mais est-ce possible que cela arrive parce que nous n'y pensons même pas? Nous avons les trajectoires de vie déjà bien tracées et on ne laisse même pas la possibilité que le Seigneur nous appelle à le servir. Quelles sont d'ailleurs les aspirations, si nous avons des enfants, pour nos enfants? Est-ce possible que tellement nous faisons des sacrifices en tant que parents financiers pour que nos enfants excellent dans divers domaines de la vie, sportive, musique, intellectuelle, etc., que cela donne un effet que nous désirons avant tout qu'ils excellent dans ces domaines-là, au dépend de nouveau de chercher d'abord le royaume de Dieu. Que notre Dieu, chers amis, ait pitié de nous si cela est le cas. Apprenons de l'exemple de Jonathan. Soyons ceux qui sont prêts à sacrifier notre ambition personnelle par amour pour Christ. Il y a une toute dernière chose à remarquer, et c'est la paix que l'Alliance procure. Jonathan quitte la table, verset 34, vous voyez ça? En colère avec son père, et il met en action le plan déterminé avec David pour que David soit averti du danger. Une fois donc que le garçon ramasse ses flèches et est renvoyé par Jonathan vers la maison, cela permet peut-être d'une manière inattendue aux deux amis de se rencontrer une dernière fois dans le champ. Ils s'embrassent, ils pleurent. Et puis au verset 42, Jonathan lui dit « Va en paix. Maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit entre toi, entre moi et toi, entre ma descendance. » Et ta descendance pour toujours. Va en paix, il dit à David. Toi qui es poursuivi à mort par mon père, qui est le roi. Bah, tu rigoles, en paix, dans de telles circonstances? Oui, en paix, dans la connaissance que l'alliance entre Jonathan et David, au nom de l'Éternel, a procuré, quoi qu'il arrive, la paix entre deux, quoi qu'il y ait comme épreuve dans d'autres domaines. Et le Nouveau Testament nous dit que c'est la même chose sous la Nouvelle Alliance. Christ nous a procuré la paix avec Dieu. Paul dit au Romains chapitre 5, nous sommes déclarés juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus rien à craindre à propos de Dieu. Mais deux versets plus tard, dans le même chapitre, il parle de nos détresses et nos difficultés, nos épreuves. Mais le chrétien, donc, malgré les difficultés et les épreuves, connaît un havre de paix. La connaissance que nous sommes réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Quoi que nous ayons comme difficulté autour de nous, nous prions que cette paix-là fortifie le pasteur Andrew Brunson. On a envoyé un mail, je pense, hier soir à son sujet. Emprisonné sans procès en Turquie depuis 18 mois, menacé d'une peine de prison de 35 ans par le simple fait, il nous semble, d'être chrétien, pasteur là-bas. Que cette paix-là puisse être quelque chose qui donne stabilité à un tel frère. Cette paix, nous pouvons la connaître, nous aussi. Peu importe les circonstances personnelles ou professionnelles qui nous pèsent actuellement. Toi et moi, nous venons de recevoir la nouvelle d'un grand ami de nous que sa maman a une tumeur au cerveau qui est tellement grand que c'est inopérable. Elle n'a que quelques semaines de vie devant elle. Et son fils, donc notre ami, nous disait dans une communication qu'ils savent, la famille, qu'elle va vers ce qui est meilleur. Amen. Et puis il dit, même si le passage pour y arriver donne un peu de peine. C'est vrai, n'est-ce pas? Et voici la foi chrétienne en pratique. Pratiquez-vous la foi chrétienne de cette manière-là. Quoi qu'il y ait comme circonstance, il y a une paix profonde sur laquelle nous pouvons compter. Ne soyons pas découragés, outre mesure, chers frères et sœurs. Le fondement de la bienveillance de Dieu envers nous en Christ sont en place. Grâce à cette nouvelle alliance en Christ, dans le sang de Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Le reste, tout le reste, ce n'est pas fort grave. Même si, dans le court terme, c'est difficile. Moi, je vous invite à prier avec moi pour terminer. L'Éternel est bon. Son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Merci Seigneur pour ce qu'on a pu contempler de ta bonté, ton amour, ta fidélité. Et donne-nous Seigneur donc de prendre refuge de nouveau en toi, de connaître cette paix qui est la nôtre dans le sang de Jésus-Christ et de manifester cette bonté dans notre façon d'agir auprès des autres, dans notre famille, dans notre travail, dans l'Église, que nous soyons des hommes et des femmes d'amour, de bonté et de fidélité. Nous te prions cela, au nom précieux de celui qui a été et qui continue à être fidèle envers nous, Jésus-Christ. Amen.